D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse en profondeur. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui.
Et moi, je suis super contente de te rejoindre pour cette exploration. C'est un sujet tellement riche.
Ouais, vraiment. Tu sais, quand on pense à la guerre psychologique, genre, notre esprit se tourne tout de suite vers l'époque moderne.
C'est clair. On imagine direct les réseaux sociaux, les algorithmes.
Les campagnes de désinformation, ouais. Ou même les tactiques de la guerre froide pour briser le moral d'une nation avant de tirer une seule balle, quoi.
Exactement. Il y a cette idée un peu persistante que la guerre mentale, la manipulation, ben les mots, c'est une invention hyper récente.
Alors que pas du tout. En fait, l'histoire nous prouve complètement le contraire.
Mais vraiment, avec une régularité troublante, hein. La mécanique de la terreur psychologique, elle est presque aussi ancienne que la civilisation elle-même.
Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans une crise historique monumentale. Un truc qui s'est passé en 701 avant notre ère.
Voilà, on parle d'une époque où les lignes de front n'étaient pas que physiques, mais vraiment viscéralement psychologiques.
Et le décor est incroyable. C'est l'affrontement ultime. D'un côté, t'as la superpuissance absolue de l'époque, l'Empire assyrien, la machine de guerre par excellence.
Et de l'autre côté,
le petit royaume de Juda, totalement acculé derrière les murs de Jérusalem, avec à sa tête le roi Ézéchias.
C'est un face-à-face David contre Goliath, mais version géopolitique.
C'est exactement ça. Et pour nos sources, on va s'appuyer sur les enseignements et les recherches du docteur John Osworth, spécifiquement sur les chapitres 36 et 37 du livre d'Ésaïe.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'analyse du docteur Osworth ne s'arrête pas juste au mouvement de troupes ou aux armes de siège.
Ouais, il va bien plus loin.
Tout à fait. Il identifie un thème central, une sorte de fil rouge pour tous ces événements, qu'il intitule « La confiance, oui, mais ».
Ouais, j'aime beaucoup ce titre.
C'est une vraie étude clinique sur ce qui se passe quand toutes les fondations sur lesquelles un peuple s'appuie sont méthodiquement détruites sous leurs yeux.
Et c'est pour ça que ça résonne tellement et qu'aujourd'hui, en fait. Pour notre auditoire, pourquoi s'y intéresser? Parce que les tactiques utilisées il y a presque 3000 ans, ce sont exactement les mêmes mécanismes qui nourrissent nos propres doutes et nos anxiétés modernes.
C'est la même architecture de la peur.
C'est ça. Alors, avant de parler de la pression mentale sur Jérusalem, faut poser le décor géopolitique.
Absolument. Il faut visualiser la terreur physique d'abord. La Syrie, à cette époque, c'est pas juste une armée. C'est un monstre de brutalité.
Genre, ils écorchaient vifs leurs ennemis, c'est bien ça?
Ouais, ils écorchaient les vaincus, ils empalaient les survivants. Ils utilisaient la terreur comme arme diplomatique, quoi.
Sympa l'ambiance. Et le pire, c'est que dans leur grande stratégie, Juda, c'est même pas le plat principal.
Non, pas du tout. Leur vrai objectif final, c'est l'Égypte.
D'accord, donc j'ai cette image en tête. L'armée assyrienne, c'est comme un bulldozer géant qui est en train de construire une énorme autoroute vers le sud, vers l'Égypte. Et Juda, c'est juste un nid de poule sur le chemin. Un truc à aplanir.
C'est une métaphore parfaite. Juda est juste un obstacle sur leur ligne de ravitaillement. Et les chiffres sont effrayants. La Syrie a déjà détruit 46 des 48 forteresses de Juda.
Attends, 46 villes fortifiées.
Complètement rasées.
Réduites en cendres.
Et au moment où notre histoire commence, ils sont en train d'assiéger Lachish. C'est l'avant-dernière forteresse et elle est plus grande que Jérusalem.
Donc Jérusalem, c'est vraiment la dernière sur la liste. Et les gens à l'intérieur savent très bien ce qui est arrivé aux 46 autres.
Ils sont terrorisés, évidemment.
Mais là, je me pose une question. Si la Syrie est ce bulldozer invincible, pourquoi ils ne se contentent pas d'assiéger Jérusalem direct? Pourquoi ils s'arrêtent pour discuter?
La réponse est purement logistique et financière, en fait.
C'est une question d'argent?
Totalement. Un siège, dans l'Antiquité, ça coûte une fortune. Il faut nourrir des dizaines de milliers de soldats pendant des mois.
Et dans un paysage aride, en plus.
Voilà. Habituellement, tu fais la guerre au printemps et tu rentres pour les récoltes. Si tu restes bloqué toute l'année autour d'une ville, tu ruines l'économie de ton propre empire. Il y a les maladies, le manque d'eau...
Donc l'objectif, c'est d'économiser du temps et de l'argent.
C'est ça. S'ils peuvent forcer une reddition juste par la peur, c'est le jackpot. C'est pour ça qu'ils n'envoient pas un bélier en premier. Ils envoient un homme, le Rabshaké.
Le Rabshaké, c'est son nom ou son titre?
C'est son titre. C'est le troisième en chef de l'Empire assyrien. Un haut commandant militaire envoyé pour une opération psychologique de précision.
Et donc, puisqu'on veut éviter un siège coûteux, l'arme choisie, c'est la parole.
Exactement.
La scène est surréaliste quand on y pense. Tu as les ambassadeurs de Jérusalem qui sortent pour parlementer avec lui. Ils tremblent de peur et ils lui disent « S'il te plaît, parle-nous en araméen ».
L'araméen étant la langue diplomatique internationale de l'époque, la lingua franca.
Voilà, comme pour dire « gardons ça entre professionnels ». Mais le Rabchaké, il refuse catégoriquement.
Il les ignore complètement. Il lève la tête vers les murailles de la ville, qui sont remplies de civils terrifiés, et il se met à crier en hébreu.
En hébreu, directement dans la langue du peuple.
C'est une stratégie brillante et cruelle. Il veut que chaque personne sur ce mur comprenne ce qu'il va lui arriver.
C'est un peu comme si, ouais, j'ai une analogie, c'est comme un expert en relations publiques malveillant. Il contourne complètement les politiciens officiels pour semer la panique directe sur les réseaux sociaux. Sauf que là, le réseau social, c'est le mur de la ville.
C'est exactement ça. Il bypasse la hiérarchie. Et les mots qu'il utilise, c'est d'une violence inouïe. Il ne parle pas de politique polie. Il parle du fait qu'à cause du siège, ils vont finir par manger leurs propres excréments et boire leurs propres urines.
Ah ouais, c'est hyper cru. Mais c'est la dure réalité d'un siège.
Il installe le désespoir physiologique avant même que l'aune soit coupée. Il veut les briser mentalement.
Et c'est là que le docteur Oswald fait une observation incroyable. Au milieu de ce discours de terreur, le Rabchaké utilise le mot « confiance » 9 fois.
9 fois ? Ouais, c'est martelé.
Il prend méthodiquement chaque pilier sur lequel Jérusalem s'appuie et il le détruit. Il commence par l'Égypte, l'allié politique.
Oui, il dit que faire confiance à l'Égypte, c'est comme s'appuyer sur un roseau cassé qui va transpercer la main.
Et visuellement, c'est puissant. Les roseaux le long du Nil ont l'air solides comme des cannes de marche, mais ils sont creux.
Exactement. Si tu t'appuies dessus de tout ton poids dans une pente, le truc se brise et les écharpes pénètrent profondément dans ta main ou ton aisselle.
C'est une blessure mortelle potentiellement à l'époque. Donc il leur dit que leur allié va en fait les tuer.
Ensuite, il s'en prend à leur propre armée. Et c'est d'une humiliation totale.
Ah oui, l'histoire des chevaux. Hein. Il propose de donner 2000 chevaux à l'armée d'Ézéchias s'ils sont capables de trouver assez de cavaliers pour monter dessus.
C'est une moquerie féroce.
Mais soyons honnêtes une seconde. Le Rabchaké, il n'a pas tort, si. Je veux dire, l'Égypte était vraiment un allié peu fiable. Et l'armée de Juda était vraiment détruite.
C'est là que c'est du génie toxique. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble de la manipulation mentale, c'est comme ça que fonctionnent les pires mensonges. Ils sont toujours enrobés de vérités indéniables.
Ah, tu valides leurs craintes factuelles pour mieux les manipuler après.
Exactement. Il dit « Votre armée est faible, c'est vrai. L'Égypte ne viendra pas, c'est probablement vrai. Et nous avons détruit 46 villes, c'est historiquement vrai. »
Donc, les gens sur le mur commencent à hocher la tête. Ils se disent « Bah ouais, il a raison. »
Voilà. Et une fois qu'il a paralysé sa victime avec des faits réels, son esprit est grand ouvert pour assimiler un mensonge parfait qui va suivre.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'après avoir détruit la confiance militaire et politique, il s'attaque à la religion, à la foi, l'ultime rempart.
Et il le fait avec une précision théologique troublante.
Il affirme que Yahvé, leur propre Dieu, est en colère contre le roi Ézéchias, parce qu'Ézéchias a détruit tous les autels locaux, les fameux hauts lieux.
C'est tellement perfide. Parce qu'en réalité, Ézéchias obéissait à la loi biblique en faisant ça. Le Deutéronome exigeait de centraliser le culte à Jérusalem pour ne pas diviser Dieu, pour éviter d'adorer un Yahvé différent dans chaque village.
Mais pour le paysan sur le mur, qui avait l'habitude d'aller prier à l'autel de son village depuis des générations...
Bah lui, il a dû détester Ézéchias pour avoir détruit son sanctuaire local. Hein.
Donc le Rabchaké exploite une faille politique interne. Il retourne le peuple contre son roi en utilisant leur propre religion, mais déformée.
C'est une guerre de l'information pointue. Et il va jusqu'à dire que c'est Yahvé lui-même qui a envoyé l'Assyrie pour les punir.
Ce qui, ironiquement, fait écho à ce que disaient les propres prophètes d'Israël à l'époque. Genre, les espions assyriens ont vraiment fait leur devoir. Hein.
Les services de renseignement assyriens étaient excellents.
Mais du coup, comment on contre ça? Comment contrer une attaque psychologique qui utilise ta propre théologie contre toi?
Bah, le truc, c'est que l'Assyrie a compris les mots, mais pas la musique. Ils ont toutes les données, mais ils se trompent sur la nature fondamentale du dieu d'Israël.
Comment ça?
Le Rabchaké souligne qu'aucun dieu des autres nations, comme les dieux de Samarie, n'a pu arrêter le grand roi d'Assyrie. D'ailleurs, tu as remarqué?
Ah oui, il l'appelle juste Ézéchias pour le rabaisser.
Voilà. Mais son erreur fatale, c'est de mettre Yahvé dans le même panier que les autres divinités locales. Il pense que le créateur de l'univers est juste un autre dieu sculpté de main d'homme, lié à un territoire.
D'accord. Donc on a cette attaque psychologique parfaite. Le peuple est terrorisé, les murailles tremblent sous les paroles du Rabshakeh. Comment réagit le roi Ézéchias ?
Sa réponse est vraiment un modèle fascinant de gestion de crise. Il ne panique pas militairement, il déchire ses vêtements, il se couvre d'un sac de deuil et il va au temple.
Et il envoie chercher le prophète Ésaïe avec une métaphore qui fait froid dans le dos. Il dit « Les enfants sont sur le point de naître, mais il n'y a pas de force pour les mettre au monde ».
Dans le monde antique, c'était l'image de l'horreur absolue. La mortalité maternelle était très courante. Une femme épuisée qui n'a plus la force de pousser lors de l'accouchement, ça signifiait la mort certaine pour elle et pour l'enfant.
C'est l'impuissance totale. Tu peux rien faire. Ton intelligence, ton armée, ton argent, tout a échoué.
C'est l'aveu de leur faillite complète. Et c'est là qu'Ézéchias prend la lettre de menace des Assyriens.
Ça, j'adore. J'ai cette image d'une entreprise qui fait faillite, tu vois. Le PDG, qui serait Ézéchias, il arrête d'essayer de cacher les pertes aux employés. Il prend la lettre de mise en demeure de la banque, il va dans le bureau du vrai propriétaire de l'entreprise et il dit « Écoute, c'est ton nom sur la porte. Regarde ce qu'ils disent de toi. »
C'est tout à fait ça. Il étale la lettre devant Dieu, dans le temple. Et cela soulève une question cruciale. L'attitude d'Ézéchias dans sa prière.
Ils ne demandent pas de l'aide parce qu'ils sont des gens parfaits, n'est-ce pas ?
Pas du tout. Sa prière se concentre sur une distinction philosophique immense. Il admet que la Syrie a détruit les autres dieux. Mais il dit « Ces dieux étaient du bois et de la pierre. Il s'adresse, lui, au Dieu vivant. »
Le Dieu vivant.
Le docteur Oswald souligne une chose importante ici. L'idolâtrie, à la base, c'est quand les humains créent Dieu à leur propre image pour pouvoir le contrôler. Le manipuler.
Ouais, comme une transaction. Je te donne un sacrifice, tu me donnes la pluie.
Exactement. Mais le Dieu vivant ne fonctionne pas comme ça. Il a des oreilles qui entendent vraiment et des mains qui agissent de manière souveraine. Ézéchias demande à Dieu d'intervenir non pas pour sauver la réputation du roi, mais pour que le monde entier sache qui est le seul vrai Dieu. L'ego humain est complètement retiré de l'équation.
C'est puissant. La prière est faite, le piège est tendu. On arrive au dénouement. Comment l'histoire et le ciel répondent à cette arrogance absolue de l'Empire assyrien ?
La réponse vient par la bouffe du prophète Ésaïe. Et elle est cinglante, elle déborde d'ironie divine.
Il dit quoi ?
Dieu dit à la Syrie, la Vierge, fille de Sion, se moque de toi.
Oh waouh ! L'image est folle. La Syrie se prend pour ce prédateur terrifiant, prêt à abuser d'une jeune fille sans défense qui représente Jérusalem. Mais au lieu de pleurer, la jeune fille rit de lui.
Parce qu'il n'a pas compris à qui il s'attaquait. Il a défié le Saint d'Israël. Dieu rappelle à la Syrie qu'elle n'est qu'un outil, une hache dans sa main.
Et la hache s'est prise pour le bûcheron, hein.
C'est ça l'hubris assyrienne. Et du coup, Dieu annonce sa sentence, en utilisant la propre méthode barbare des Assyriens.
Ah oui, le crochet. Les Assyriens mettaient des crochets dans le nez de leurs prisonniers pour les traîner.
Eh bien Dieu dit, je mettrai mon crochet dans ton nez, et je te ferai repartir par le chemin d'où tu viens.
Et la résolution est fulgurante. Pas un seul coup d'épée n'est tiré par Judas. Le texte biblique dit que l'ange de l'Éternel traverse le camp assyrien la nuit et au matin, 185 000 soldats sont morts.
C'est radical. Le grand roi Sennachérib, terrifié, lève le camp et fuit vers sa capitale, Ninive.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si, 19 ans plus tard, il y a cette fin très ironique.
Oui, comme on dit, les moulins de Dieu broient lentement mais sûrement. Sennachérib est assassiné par ses propres fils.
Eh ben n'importe où, dans le temple de son propre dieu, Nisroch.
Exactement. Le dieu dont il vantait la supériorité s'est révélé incapable de le protéger dans son propre sanctuaire. C'est l'effondrement total du mensonge du Rabshakeh.
C'est de la poésie historique. Mais attends, je veux te poser une question provocatrice.
Je t'écoute.
Les archives assyriennes. Les archéologues ont retrouvé des traces de cette campagne, non ? Et les Assyriens disent que Sennachérib a gagné. Il a écrit qu'il a enfermé Ézéchias comme un oiseau dans une cage. Comment on réconcilie ces deux versions ?
Leurs annales, ils ne perdent jamais.
Ah donc ils ont juste maquillé la vérité ?
Totalement. Se vanter d'avoir mis quelqu'un en cage sans jamais prendre la ville, sans tuer le roi rebelle, sans prendre le trésor du temple... C'est l'aveu d'un échec monumental déguisé en victoire.
Enfermer un oiseau dans une cage et rentrer chez soi sans la cage, ça veut dire que l'oiseau a gagné.
Voilà. D'ailleurs, fait historique. Après ça, Sennachérib n'a plus jamais fait campagne à l'ouest.
C'est fou. Alors, Qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? On n'a pas parlé de ça juste pour faire un cours d'histoire antique.
Non, c'est une vraie réflexion sur la nature de la confiance. Faire ses devoirs intellectuels, accumuler des données comme l'ont fait les espions assyriens, ça ne suffit pas si on manque de sagesse pour comprendre le cœur des choses.
Et de l'autre côté, notre confort, notre intelligence, nos stratégies, nos chevaux ou notre Égypte moderne finiront tous par céder sous la pression d'une crise existentielle.
La véritable question, c'est de savoir à qui ou à quoi on présente nos lettres de menace quand tout s'effondre.
Exactement. Et je voudrais laisser notre auditoire sur une pensée un peu provocatrice pour clore. Imaginez un instant, si nos propres anxiétés modernes, nos peurs les plus profondes, devaient prendre forme humaine aujourd'hui.
Une sorte de Rabshakeh personnel ?
C'est ça. S'il se tenait sur nos murailles de notre propre esprit, quel langage utiliserait-il ? Quelle demi-vérité, basée sur nos vrais échecs, chuchoterait-il pour court-circuiter notre logique et détruire notre confiance fondamentale ?
C'est une question puissante, à laquelle on doit tous faire face.
C'est tout pour cette analyse en profondeur. Merci de m'avoir accompagné.
Merci à toi, c'était passionnant.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez le temps d'y réfléchir. À la prochaine.